Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une 297e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance de recevoir Adeline Fleury pour son roman Le ciel en sa fureur aux éditions de l'Observatoire. C'est la première fois qu'on vous reçoit Adeline et on en est bien ravi parce que ce roman, il a déjà conquis beaucoup de lecteurs et je suis ravi de vous recevoir entre guillemets si tardivement par rapport à la sortie pour que le livre puisse continuer à exister parce qu'il le mérite fortement. Alors évidemment, j'aimerais déjà commencer par vous connaître un petit peu, Adeline. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, romancière, vous avez déjà écrit de nombreux ouvrages, notamment Le désir féminin, Petit éloge de la jouissance féminine en 2022. Mais pas que, vous avez aussi fait état d'un livre sur les combattantes, avec une série télé également qui a suivi, et ce n'est pas rien. On sait à quel point le cinéma et les séries sont difficiles.
Non, j'ai beaucoup parce que en fait c'est l'inverse. C'est ce qu'on appelle une novélisation. Bonsoir à tout le monde. J'ai travaillé à partir des scénarios de la série et je ne suis pas à l'initiative de l'histoire des combattantes. Je rends à César ce qui appartient à César. J'ai fait un exercice d'adaptation du scénario au roman. C'est un peu
Voilà.
particulier. Voilà. Je prends la
Bien,
parole. Oui.
vous avez bien fait de le préciser. Alors, j'aimerais savoir déjà comment vous en êtes venu à être écrivain, à comment on décide en passant dans ces différentes casquettes qui sont toutes différentes les unes des autres, mais finalement, ça reste le cœur de cible, reste l'écriture, qu'elle soit écrite, orale ou pas, mais en tout cas, écrire, j'imagine que c'est dans votre ADN. Comment vous êtes venu à cette littérature et à décider d'être romancière?
Alors, est-ce qu'on décide d'être romancière? La question, elle est judicieuse. Non, moi, je viens de la presse écrite et de la presse de reportage. Ah, donc, j'ai parcouru, sillonné la France pendant des années pour le journal du dimanche au service société. J'ai couvert des faits divers, j'ai couvert la ruralité, j'ai couvert les émeutes en banlieue, vraiment un panel de reportages divers et variés. Et j'avais toujours une. Donc j'écrivais des textes journalistiques, des reportages, et j'avais toujours une petite frustration liée au format journalistique qui impose un cadre, un nombre de signes, un nombre de lignes, et aussi une certaine objectivité, normalement. Et j'avais des petits carnets de reportages que j'appelais des reportages off, mes carnets de off. Où ça me donnait certaines personnes rencontrées sur le terrain ou des situations, des scènes, me donnaient des idées pour soit des bribes de nouvelles ou de romans, et j'avais gardé ça et mis de côté. J'avais absolument pas le temps à l'époque d'aller plus loin dans cette écriture plus romanesque. Et puis, je me suis fait rattraper par un prolongement de mon métier de journaliste. Une éditrice m'avait appelé, mais ça remonte, hein, au début des années 2010, pour me demander d'écrire des livres pour les autres. J'ai prêté ma plume, et je le fais encore, à des personnalités, à des anonymes, à des gens qui ont été dans l'actualité, un petit peu, souvent plutôt des thématiques de société. Et cette écriture-là, au long, m'a plu. Vraiment, et à un moment, voilà, j'ai basculé, j'ai eu envie de sortir de l'ombre, entre guillemets, pour écrire mes propres textes, et c'est plutôt d'abord des textes plus intimes que celui-là, que Le ciel en sa fureur, des histoires plus liées au désir féminin, comme vous l'avez dit auparavant. L'écriture à la première personne d'abord, qui m'a beaucoup aidée à lâcher les chevaux, à me laisser aller, à me livrer. Et puis, de livre en livre, j'ai eu envie d'aller de plus en plus vers le romanesque pur, de m'éloigner de la réalité, bien qu'il y ait du réalisme dans ce texte quand même. Et j'arrive à dire simplement au bout de ces 10 ans, sans compter Les combattantes, mon quatrième ou cinquième roman, et c'est seulement maintenant que j'arrive à dire je suis romancière. Voilà. Je disais, j'étais autrice et écrivain, j'arrivais écrivaine à le dire un petit peu, mais romancière, Pas encore. Je trouve que j'étais pas légitime parce que j'avais pas écrit un texte où l'imaginaire vous emporte, où je crée de toutes pièces des personnages. Et voilà. Et maintenant, depuis peu, j'arrive à l'affirmer. Donc, je n'ai pas décidé d'être romancière ou écrivain. L'écriture est dans ma vie depuis 20 ans et elle a pris plusieurs formes, protéiformes, et aujourd'hui, c'est sous la forme de roman qu'elle s'épanouit. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Très bien, mais ça veut donc dire que vous mettez le roman au-delà de tout
Oui.
plan intellectuel.
Je le crois. Enfin, déjà, en tant que lectrice aussi, je dévore énormément de romans, alors qu'avant je lisais essentiellement des essais. C'est marrant, hein, le basculement, ça va avec mon changement d'écriture aussi. Et le roman, la fiction, la force de la fiction dans mes textes à moi, c'est une liberté assez incroyable. Voilà, j'ai découvert ce que j'aime bien. J'anime des ateliers d'écriture, j'aime bien qualifier de souffle romanesque et de souffle narratif, et se laisser complètement embarquer par une histoire, tout en essayant, en toile de fond, de faire passer des messages sociétaux quand même. Voilà, pour ne pas renoncer totalement à ce qui m'a animée en tant que journaliste.
On y reviendra parce qu'évidemment, on les entrevoit, même si vous le faites avec une grande subtilité, ce n'est jamais trop lourd au final. Vous y intégrez quelques petites phrases qui finalement nous font aussi réfléchir sur les sujets sociétaux. On en reparlera tout à l'heure. Mais justement, j'aimerais que vous nous parliez de réalisme magique, puisque ce texte en est évidemment totalement imprégné. Tout à l'heure, vous parliez de souffle romanesque et du fait que vous lisiez beaucoup. On y voit un petit peu peut-être de Borges, on y voit un petit peu de littérature sud-américaine, on y voit peut-être un petit peu de George Sand. On y voit beaucoup de d'influences littéraires qui vous ont forgé. Et ma question étant la suivante, évidemment, nous parler de vos influences littéraires, mais dans un second temps aussi, comment ces influences vous imprègne ou au contraire vous enlève aussi peut-être de l'intuition. Est-ce qu'un écrivain est tellement perturbé par ses lectures que ça enlève aussi peut-être un petit peu plus de côté intuitif? Est-ce que c'est réel ou pas ça?
Alors, évidemment, il y a des influences, mais je pense que pour ce texte, elles sont totalement inconscientes. C'est plutôt des influences des textes que j'ai lus il y a des années, dans lesquels je ne me suis pas replongée récemment. Et je pense que c'était un bouillonnement en moi. Vous citiez la littérature latino-américaine, Borges en particulier. J'ai fait une maîtrise de littérature et civilisation latino-américaine. Donc, j'ai beaucoup lu à cette période-là. Ouh là là, ça remonte. Mais depuis, je ne me suis pas replongée dedans. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai lu plutôt des essais et de la littérature très auto-fictive. J'avais ma passion pour l'auto-fiction pendant très longtemps. Et là, c'est comme si tout ce bouillonnement, ce bain, George Sand, oui, c'est la mare au diable, c'était là. Il y a Barbey d'Aurevilly qui m'a pas mal inspirée. C'est ma région, donc c'est forcément ça remonte. Mais j'ai pas relu ces textes-là pour écrire, dans le but d'écrire Le ciel en sa fureur. C'est plus en cours d'écriture que ça m'est remonté. Et c'était plus, je me disais, tu navigues entre deux univers. Le réalisme, voire le thriller, ça flirte avec le thriller et le côté magique. Et longtemps, je me suis posé la question, est-ce que je dois garder les deux? Et c'est là que je me suis dit, bah oui, la littérature latino-américaine le fait. Pourquoi nous, on s'interdirait en France de s'offrir cette liberté-là? Et c'est à ce moment-là que ces influences sont revenues. Et pour le côté plus thriller rural, pour la noirceur, il y a une. Moi, j'ai beaucoup aimé les textes, les premiers textes de Franck Bouys, et je pense que c'est là. Enfin, j'écris pas du tout de la même façon, mais c'est peut-être pour poser les atmosphères. Il y a de ça dans mes influences. Et votre question, elle est très bonne. Donc, j'ai pas été perturbée par toutes ces, puisque elles sont venues, elles se sont additionnées en cours d'écriture et que vous avez employé le mot d'intuition. Et je pense être une autrice qui marche à l'intuition. J'avance, il est très structuré ce livre, mais d'abord j'ai fait un premier jet, un petit peu qui est sorti de moi un peu foutraque à l'intuition, sans vraiment penser à une structure en particulier, et c'est à rebours que je l'ai retravaillé comme un puzzle. Mais voilà, surtout toutes ces influences-là, je voulais pas qu'elles me, j'allais dire qu'elles me pourrissent et qu'elles me polluent mon texte, et j'espère ma singularité. Enfin, voilà. Et après, en cours de route, pourtant je lis pas de littérature trop fantastique ou de genre, et la figure de Frankenstein m'est apparue. Enfin, plein de choses sont venues s'additionner dans ce texte, un petit peu, qui pourrait avoir plein d'influences, mais finalement des influences très, très enfouies et très inconscientes. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Bon, c'est très bien, c'est très bien. Alors, avant de parler de cette dernière phrase que vous faites dans les remerciements, où vous dites à votre fils, vous le remerciez et vous dites, ça y est, j'ai terminé mon roman, sauf que ça a duré 2 ans. Alors, avant de parler de ça, j'aimerais que vous nous parliez de la genèse déjà de ce roman-là. Comment cette idée, parce qu'en réalité, il y a tellement de choses dans ce roman que je ne sais même plus par où commencer. Il y a beaucoup de choses et en même temps, c'est extrêmement, c'est court finalement. On a envie d'en voir 10 fois plus peut-être, mais ça aurait été peut-être un petit peu trop long. Mais cela étant, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de thématiques qu'on va aborder tout au long de la rencontre. Mais c'est vrai que la genèse de ce roman, on ne sait pas par quel angle vous avez attaqué. Est-ce que vous avez attaqué par le côté rural, le côté cotentin et de ce village français? Est-ce que vous avez attaqué du côté réalisme magique? Est-ce que vous avez attaqué du côté sociétal finalement? Du côté du royaume des fées? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup d'angles finalement sur lesquels vous avez peut-être dû déclencher quelque chose, déclencher la création artistique. Laquelle est-elle?
Alors, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, d'où peut-être ces couches et sous-couches. Il y a eu d'abord cette expérience, en fait, qui donne lieu à une scène assez inaugurale du texte, où je suis allée moi-même voir une rebouteuse, une magnétiseuse, ce qui a donné naissance au personnage de la vieille. Je l'ai un peu évidemment pris pas mal de liberté avec, mais toujours est-il que je suis allée voir une rebouteuse pour un problème de peau, et je sais pas si, enfin ça va mieux depuis, mais je sais pas si c'est elle ou d'autres choses ajoutées qui m'ont guérie entre guillemets, mais en tout cas je suis sortie de cette séance complètement bouleversée, vidée d'énergie. C'est comme si elle m'avait enlevé mon mal est happé de l'énergie. J'ai dormi pendant des heures derrière. Et pendant plusieurs jours, j'étais complètement obsédée par cette scène que j'avais vécue, au point de devoir la coucher sur papier. Et ça a donné lieu à un premier chapitre où ce personnage de Grande Stéphane est venu. Alors que c'est pas moi, elle me ressemble pas, et elle m'est tombée dessus d'un coup. Et donc j'ai écrit ce chapitre-là, qui est pas le premier chapitre du texte en l'état. J'ai mis ça de côté. Là, on est en novembre 2021, ouais, je crois, oui, c'est ça. Et quelques semaines après, il y a ces histoires d'animaux mutilés, de chevaux mutilés. Ce fait divers qui a touché un peu partout en France, en Bretagne, à l'est, dans le nord de la France, ces cadavres de chevaux retrouvés mystérieusement. Et ça m'a renvoyé à mon enfance, où déjà, pas très loin de chez moi, à 20 km, on avait retrouvé deux chevaux mutilés, et puis plus loin, cadavres de vaches, un pis sectionné. Et voilà, donc c'est à quelques semaines d'intervalle, il y a la rebouteuse, les chevaux mutilés, Et ce livre de contes que j'avais chez moi, Contes et légendes, d'ailleurs d'un monsieur qui s'appelle Fleury, mais c'est pas du tout mon aïeul. C'est assez, assez savoureux, c'est comme un signe que je lisais et que mon père me lisait quand j'étais petite. Et puis, je me suis replongée dedans. Et là, il y avait tous ces ingrédients que j'avais envie de... Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la ruralité et la campagne. Et je me suis dit, ben voilà, les chevaux mutilés, la rebouteuse, les contes et légendes, un peu de réalisme magique, et on secoue tout ça. Et je vais essayer de tisser une histoire autour de ces ingrédients-là. Voilà, donc ces trois éléments déclencheurs pour cet acte d'écriture. Voilà.
Et alors, en effet, c'est un très bon pitch de démarrage, ça c'est évident. Mais alors justement, sur cette phrase où on a l'impression, avec cette phrase que vous dites à votre fils, ça y est, j'ai terminé mon roman, et on imagine que toutes les semaines ou tous les mois, peut-être, vous lui disiez cette phrase, et que finalement, il n'est jamais terminé. Est-ce qu'un roman est complètement terminé? Est-ce que, en relisant aussi Le ciel en sa fureur, vous aviez envie d'y corriger, d'y ajouter des choses? Est-ce que finalement, c'est l'écriture d'un roman, ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est le moins qu'on puisse dire, mais 2 ans, est-ce que ça a été 2 ans de souffrance? Est-ce que ça a été 2 ans de difficulté pour créer l'univers que vous vouliez absolument?
Non, c'est 2 ans par petite, par bribes, en fait, des moments d'écriture, parce que je ne fais pas que ça pendant 2 ans. Et c'est des moments arrachés au quotidien, dont le quotidien avec un jeune adolescent qui est là souvent et qui me laisse écrire, et c'est assez, assez agréable. Mais c'est un texte que j'ai beaucoup, beaucoup. Alors, il n'est pas très, très long comme ça, mais que j'ai énormément retravaillé. Il y a eu vraiment des phases. Il y a un premier jet qui sort très vite. Et là, je ne suis pas totalement satisfaite de mon premier jet. Je le retravaille, je rechange l'ordre des chapitres, je sacrifie des personnages. Il y en avait encore beaucoup plus, trop, beaucoup trop, parce que j'arrivais pas à les lier à l'intrigue principale. J'avais à cœur que tout soit relié par un fil narratif. Et je l'ai retravaillé pendant plusieurs semaines toute seule. Puis je l'ai fait lire à un agent littéraire qui m'a dit, moi en l'état, je le fais tourner. Et voilà, ça c'est l'été de 2022. Ouais, c'est ça. Non, 2000, on est en quoi? 2024, oui. Enfin bref, qu'importe. Et il y a eu une autre phase, une fois que le texte est arrivé entre les mains de mon éditrice. Elle aimait ce texte, mais elle m'a fait un retour. Mais ça partait dans tous les sens, avec plein de pistes de retravail encore. Et là, et j'avais d'autres propositions de maison d'édition, mais certains proposaient très peu de retravail. Et moi, je sentais que le texte, il n'était pas encore abouti. Et cette Dana Burlak, aux éditions de l'Observatoire,
On
m'a
aime beaucoup.
oh,
On aime
bah,
beaucoup Dana Burlak.
m'a poussée à assumer complètement le côté réalisme magique, alors que une autre maison d'édition voulait me prendre dans une collection noire. Vous voyez, vraiment, moi j'adore le polar, aucun problème, mais ça voulait dire que, parce que dans l'édition française c'est un peu comme ça, si on fait le choix d'aller en noir, eh ben, en gros, on reste en noir pendant des années, quoi. Là, je faisais un énorme saut et j'ai pas envie d'écrire du thriller derrière. Je veux pas me. Enfin, la littérature blanche offre plus de possibilités. Je crois, et je crois que je saurais pas écrire un vrai bon polar en fait. Il y a ça aussi. Et ensuite, avec Dana et une éditrice qui s'appelle Flandrine Rapp qui travaille avec elle, elles m'ont ouvert des portes, mais sans dénaturer l'essence de ce texte en fait. la magie qu'elles avaient sentie, le, les personnages un peu chorales comme ça. Et là, j'ai rebossé pendant 3 mois non-stop sur le texte, et elles m'ont fait passer vraiment des caps d'écriture en me posant les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que mon fils m'a vu à plusieurs moments dire, ça y est, le texte, j'ai fini mon roman. Mais non, parce que c'était des phases, des étapes. Et là, je pense qu'il est vraiment, enfin, je sais pas, c'est toujours perfectible, mais je pense qu'on a été au bout du truc quand même. La boucle est bouclée, même si le personnage de la grande Stéphane, elle s'en va, elle quitte ce village, et peut-être qu'on pourrait la retrouver dans une autre histoire, mais j'en suis pas là. J'ai un peu de mal à la lâcher, elle, j'avoue. Et à force d'aller en librairie, de faire des rencontres comme ça avec vous, je me rends compte que ces personnages, ils sont encore très prégnants et présents en moi, quoi. J'écris autre chose, mais ils sont là encore. Et je veux pas qu'ils se convoquent dans qu'ils s'invitent dans mon prochain texte, mais ils sont encore vraiment très présents.
Et ça se sent parce que ils sont véritablement très bien incarnés. Et clairement, la grande Stéphane fait partie de ces personnages-là qu'on n'a pas envie de quitter. Alors, Aurélie demande si tous vos ouvrages ont demandé autant de temps. Est-ce qu'il y a des différences entre peut-être les différents genres que vous avez écrits?
Ah oui, alors forcément, un texte comme Le Petit Éloge de la Jouissance Féminine, qui est en plus très très, enfin beaucoup plus court, je l'avais écrit en 3-4 mois, disons. Voilà, mais les romans, non, enfin les romans, c'est 2 ans à minima en vrai, pour quelque chose d'abouti, de travailler. Et écrire si on peut écrire un texte par an, mais je trouve non, et même 2, 3 ans, enfin je pense que c'est pas mal, 2, 3 ans pour un vrai bon roman. Et les autres, non, non, mais mes romans, c'est toujours à peu près 2 ans, quoi, de travail. Alors parfois, ils se chevauchent, hein. J'avais pas fini Les Frénétiques que j'avais commencé celui-là, en vrai. Mais c'est. Il y a toujours une histoire d'avance aussi qui. Est-ce que ça compte dans la phase d'écriture, les moments où déjà on pense au suivant?
Ça peut, ça peut. Alors j'aimerais qu'on redémarre à rebours sur l'Incipit, qui est quand même, qui commence extrêmement fort, où il pleut quand même des crapauds. Et c'est là toute votre puissance aussi dans le romanesque, c'est que vous nous faites croire que c'est du magique, mais finalement ça existe déjà. C'est le genre de choses qui est comparable évidemment au Dix Plaies d'Égypte. Tout le monde aura la référence bien entendu, mais pour le coup, ça existe, ce genre de choses, ça existe. Par des grands vents, par des phénomènes météorologiques à travers le monde. Ça existe déjà, mais finalement, quand on vous lit, on a l'impression que c'est devenu magique parce que vous utilisez les mots qui vont aussi, le champ lexical qui va avec le réalisme magique. C'est quoi cette histoire d'Inkipit extrêmement puissant qui nous met dans le bain? Et finalement, pendant tout le livre, il y a beaucoup de scènes comme ça. On pense en tout cas, on pense que c'est de la magie, mais finalement, vous nous embarquez avec de la magie.
Oui, alors je tenais à ce qu'il y ait un incipit et une scène un peu forte dès le départ pour donner le ton. Et aussi inscrire ce village et puis ce lotissement à côté sous le sceau d'une malédiction, finalement, et d'un danger qui vienne du ciel ou d'ailleurs. Enfin, je dis pas tout dans l'incipit. Et d'ailleurs, dans la temporalité, ça ne se passe pas au tout début, mais j'y reviens au milieu du texte. Et en fait, la scène se situe dans la temporalité au milieu, finalement. Et oui, cette pluie de grenouilles, de crapauds, oui, évidemment, c'est une plaie d'Égypte. Il y a ça aussi dans la littérature japonaise, à Haruki Murakami notamment. Et moi, j'essaye de. Enfin, les personnages essayent de l'expliquer aussi par un phénomène météorologique. Hein. Ils sont happés, finalement. Ça existe. Et ça existe, il y a des pluies de sauterelles, il y a, voilà. Mais je voulais aussi une menace qui vient de la nature et pas que des hommes qui finalement sont quand même violents dans mon texte. Mais la nature, elle se rebelle, elle se manifeste. Ouais, c'est sur les deux tableaux, la magie et quelque chose un petit peu de pré-apocalyptique ou post-apocalyptique. C'est pas une dystopie non plus, mais je floute aussi un peu les contours. Bon, il y a des petits détails, comme à un moment, il y a un Walkman, tout ça, on voit bien à peu près quand on est, mais j'ai pas eu envie de marquer trop la temporalité pour que ce texte puisse avoir une lecture aussi contemporaine, et ça pourrait très bien se passer dans 10 ans aussi.
Et on achète en francs, par contre.
Oui.
Donc oui, c'est vrai que la temporalité, vous distillez, c'était aussi une de mes questions sur cette temporalité qui est floue, mais en même temps, on voit qu'on est quand même dans les années 80, 90 maximum peut-être, voire moins, je ne sais pas d'ailleurs, mais voilà, on est à peu près, en tout cas pour le Walkman, clairement, je pense qu'on est dans les années 80 potentiellement, et évidemment, on est en dessous des années 2000, puisque... La monnaie en tout cas et le franc, donc pour le coup, vous distillez quand même une temporalité.
Mais en laissant une liberté aussi au lecteur de l'imaginer quand il veut. Enfin, c'était l'idée. Mais oui, de par mon âge, tout ça, on peut voir le tournant fin des années 80, début des années 90, clairement.
Et ça a aussi des conséquences, je pense notamment à ce passage où vous dites que l'écologie est un mot tabou, est un gros mot pour les agriculteurs, les paysans. Et ça a changé. Donc clairement, alors ça a changé, oui et non peut-être, sur certaines pratiques, notamment.
Là, on l'a vu quand même pendant les mobilisations d'agriculteurs. Ça ne se marie pas très bien, en fait, les considérations écologiques, écologistes d'un côté, la productivité de l'autre. Hein, tout ça, c'est pas en osmose, disons. Et ça l'était pas. Enfin, disons, l'écologie à la fin des années 80-90, c'était vraiment un gros mot. On n'en parlait pas. Et encore moins dans ces territoires-là.
Là,
Et
ce n'est qu'une insulte.
pourtant, on aime la nature. Les agriculteurs aiment la nature, aiment les animaux, les respectent. Et même si moi, je m'autorise des mutilations dans ce texte, mais c'est plus une trame narrative que quelque chose. Voilà.
Bien sûr. Jennifer, c'est à toi.
Bonsoir. J'ai lu votre texte il y a un petit moment. J'ai été vraiment charmée. Enfin, j'ai trouvé qu'effectivement, il était magique, c'est le mot, hein. Il a une ambiance vraiment extraordinaire qui prend aux tripes en fait dès le départ. En plus, moi je trouve que, alors je vais rajouter, je trouve qu'il y a même un petit peu de gothique en fait et même vraiment de la poésie en fait carrément. J'ai trouvé des passages extrêmement poétiques mais poétiques dans la noirceur, donc ce que j'aime particulièrement. Et là vraiment c'est ce qui m'a touchée en premier lieu. Après j'ai aimé les thèmes, l'histoire qui s'ajoutait et qui était un peu la cerise sur le gâteau, donc. J'ai trouvé que vraiment il était extrêmement réussi, abouti, et franchement je vous félicite hein, parce que c'est une des plus jolies lectures que j'ai fait ces derniers temps, sans aucun doute.
Merci beaucoup.
Et alors, un truc que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, c'est vos descriptions. Oui, vos descriptions étaient vraiment extraordinaires parce que, bon, déjà, je me répète, elles sont extrêmement poétiques, mais en plus elles ont quelque chose de très sensoriel aussi en fait. Et donc, j'avais envie de vous demander, ben, comment vous faites pour décrire en fait voilà les paysages, pour les décrire avec les tripes en fait, voilà, c'est ça.
Ah, vous employez deux termes qui me plaisent beaucoup, c'est sensoriel et trip. Donc c'est un petit peu comme ça que je conçois l'écriture. Je pense que ça vient de deux choses. De mon côté reporter, j'avais pas de caméra, moi, je n'avais que ma plume et mes mots. Et j'aimais bien que mes reportages soient sensoriel, qu'on sente où on est, qu'on entende, qu'on goûte, qu'on soit pénétré par les éléments. Et dans ce texte, enfin, cette Normandie-là s'y prête particulièrement. Et j'ai vraiment travaillé ouais, sur les odeurs, sur les textures, sur le côté, bah, la vase, les embruns, la boue, parfois la puanteur, les choses un peu âcres, très, très, très puissantes. Et j'ai travaillé ça comme j'ai travaillé dans mes textes précédents sur le corps. En fait, la nature, pour moi, je la décris comme je décrivais le corps féminin dans mes textes plus érotiques même. J'ai écrit des textes érotiques et je pense que c'est une écriture. Je suis passée de la sensualité à la sensorialité quelque part. Et j'ai vraiment à cœur que le lecteur ressente ce que mes personnages ressentent et ce qui les traverse. Et puis ça éclaire la psychologie des personnages aussi, ce rapport aux éléments, à la nature. Et oui, plus que des descriptions très visuelles, que visuelles, je pense que je convoque plusieurs sens pour les travailler. Et j'ai vraiment fait attention à ça, à prendre mon temps de poser chaque mot dans ces passages un peu plus descriptifs. J'ai pas essayé de faire du descriptif juste esthétique, mais vraiment qu'on soit dans le ressenti et un peu en
Et
partage.
d'ailleurs, il y a des éléments qui sont vraiment presque personnifiés. La lune, à la fin de l'Inkipit, là, quand elle est décrite, on dirait un personnage à part entière. Elle a une présence incroyable, en fait. Ça ajoute énormément à l'ambiance, tout ça, hein. C'est vraiment, vraiment réussi.
Merci. Je pense oui, la lune, c'est. Il y a aussi tout cet univers lié aux contes. Donc, dans les contes, les éléments sont des personnages. Et je pense que naturellement, j'ai glissé vers ça aussi dans mon écriture.
Alors, vous me donnez le relais parfaitement, puisque j'aimerais parler de ce territoire dont vous êtes issu, justement, et je vous cite, cette terre normande est parcourue d'ondes étranges, d'énergies contradictoires qui secouent les habitants et fragilisent les nouveaux arrivants. La menace vient du ciel ou bien d'ailleurs. Elle caractérise parfaitement aussi ce qu'est un village, une terre, un territoire véritablement ancré aussi dans sa singularité. C'est une terre qu'on pourrait peut-être pas forcément comment dire, décrire comme des territoires plus durs, comme peut-être la Corse, comme le Pays Basque. Et finalement, la terre normande, elle a aussi ses particularités et ce lien si difficile peut-être avec l'extranéité, avec l'étranger qui arrive. Et j'aimerais qu'on parle également de cette bibliographie, puisqu'il y a une bibliographie dans un roman, et ça c'est rare, et on sent votre côté évidemment journaliste, vous n'avez pas pu vous empêcher d'une bibliographie. Et il y a deux ouvrages, donc vous avez parlé tout à l'heure de Jean Fleury pour la littérature orale de la Basse Normandie, et Amélie Bosquet, La Normandie romanesque et merveilleuse, tradition, légende et superstition populaire de cette province, 1845 et 1883. C'est quand même fascinant aussi de pouvoir reprendre ces contes et légendes et d'en réussir à intégrer d'une manière extrêmement fine dans un roman. Comment vous avez travaillé la matière? Comment vous avez travaillé cette matière-là et notamment sur l'extranéité de la terre normande, Cotentin pour être précis?
Plusieurs choses concernant les contes et légendes. Je voulais pas, enfin, j'ai essayé de m'efforcer, je me suis efforcée à ne pas les plaquer comme ça, et me contenter de les reprendre et de les balancer. Ils viennent éclairer à chaque fois, enfin, je crois, des moments clés de la narration du roman. C'est parfois en lisant tel ou tel conte ou légende que ça m'a inspiré des scènes, et parfois c'est à rebours. J'étais avec mes scènes à moi et je compulsais les deux ouvrages. D'ailleurs, ils ont beaucoup de points communs. Ce sont les mêmes légendes, hein, qui sont compilées et écrites différemment, parce que ça vient de l'oralité beaucoup, beaucoup. Et je me suis vraiment amusée à faire un va-et-vient entre mon univers à moi, cette matière-là, absolument. Enfin, ces contes, ils sont à la fois romanesques, cruels, super noirs, en même temps très poétiques. Voilà, c'est cette poésie-là qui me plaisait. Et ils sont en accord parfait avec ce territoire-là, cette terre que je connais bien, qui est entre la. C'est une ruralité qui est aussi tournée vers la mer. C'est un lieu assez enfermé, mais en même temps, il y a une porte de sortie, qui est, la mer. Et c'est une ruralité qui est à cheval entre des agriculteurs et puis aussi des pêcheurs. Les agriculteurs de la mer. Il y a tout ça. Et les contes et légendes aussi, il y a tout ça. Il y a des personnages, enfin, il y a des choses qui se passent sur la grève, sur les falaises, dans les dunes, dans ces contes et légendes. Il y a l'histoire des hommes moutons, des hommes qui se transforment en moutons, qui errent sur les falaises de la Hague. Tout ça, c'est dans ces recueils. Et moi, j'avais envie de. Enfin, c'était très enfoui. Moi, je suis pas une fille de paysan, j'ai pas grandi dans une ferme, tout ça, mais la plupart de mes copines et amies, quand j'étais petite, étaient en effet, vivaient dans des fermes. Et moi, je passais mes mercredis après-midi et mes week-ends, dans les bottes de foin. C'était très, très joyeux. Et en même temps, bah, je voyais que. Entre les murs, il se passait des choses parfois dures et que c'était un quotidien vraiment rude, pas facile, et des gens très taiseux, en fait, très secrets. La parole, c'était difficile de la faire sortir. Et ça, je pense pas que ce soit propre à cette région en particulier. Je pense qu'il y a d'autres territoires comme ça. Et avec quand même une difficulté à s'ouvrir. Mais une fois qu'on les connaît, ils sont très chaleureux, jovial, etc. Mais en plus, moi, j'ai plusieurs cultures. Ma mère est marocaine et j'ai été élevée dans quelque chose à côté de très méditerranéen. Et ces gens que je qualifie de taiseux, c'était difficile de les percer au départ. Et en même temps, c'est follement romanesque, hein. Les gens taiseux, les secrets, on peut imaginer plein de choses derrière les murs. Voilà, j'ai des souvenirs de fenêtres qui se fermaient, les portes n'étaient pas forcément ouvertes comme ça. C'est un peu foutraque là, ma réponse, mais je suis passée
Non, ça résume bien la région, j'ai l'impression. Je n'y suis jamais allé, mais j'ai l'impression en tout cas que tel que vous la décrivez dans le roman, c'est en effet quelque chose de très frappant, en tout cas, sur ce côté extranéité. J'aimerais que vous nous lisiez un premier extrait, Adeline, pour donner le ton à ceux qui ne l'ont pas encore lu.
Alors, j'avais isolé un passage concernant la vieille, la rebouteuse, dans le début, avec une description de ce qu'elle est. Alors, je rebois un petit peu d'eau. Merci de m'avoir conseillé de prendre un verre d'eau au début, parce que.
La vieille qui n'est pas vieille en réalité, hein,
Oh.
mais c'est parce qu'elle a épousé le vieux,
Eh
justement,
bien, oui.
vieux vétérinaire, parce qu'il a 20 ans de plus qu'elle.
Et donc, à 27 ans, elle était vieille déjà. Alors, la rebouteuse claudique jusqu'à elle. Elle a cette démarche de boiteuse depuis toujours, une jambe plus courte que l'autre, un léger handicap qu'elle n'a jamais daigné corriger par le port d'une talonnette et qu'elle compense par un déhanchement exagéré, accompagné d'une mimique nerveuse au niveau de la joue droite. Elle serre la main de la grande Stéphane. Grommelle qu'elle s'installe sur la table d'opération. Stéphane s'allonge sur le brancard d'ambulancier un peu bancal. La vieille la recouvre d'une serviette éponge imprégnée de l'odeur du chien. Julia l'avait prévenue que l'hygiène laissait à désirer, mais elle était loin d'imaginer que ce soit aussi crasseux. La vieille la fixe sans lui poser aucune question sur les raisons de sa venue. Elle a un regard réconfortant, d'une bonté et d'une sagesse que Stéphane n'avait jamais rencontrée auparavant. La vieille porte le monde dans les yeux, les catastrophes, les grandes découvertes, les guerres, les passions dévorantes, la succession des saisons, les migrations des oiseaux, l'éclosion des fleurs, la crue des rivières, les tempêtes et les grandes marées d'équinoxe. Cette femme-là n'est pas simplement humaine. Elle est animale, végétale, minérale. Elle est la vie. Stéphane est prête à s'en remettre entièrement aux mains de la vieille, malgré l'odeur, malgré la saleté. Voilà, j'aimais bien ce petit extrait qui décrit ce personnage et qui pose aussi, parce que je pense avoir un petit propos légèrement féministe dans mes textes, pas forcément militant et pas dans celui-là, mais je glisse des petits messages. Enfin, j'aime bien écrire ce que je qualifie de féminité puissante, en fait. Et je trouve que cette femme-là, voilà, elle porte le monde, elle est sachante, elle est puissante, elle est complexe. Et j'avais envie de concentrer ça dans un petit passage. Et cette féminité puissante, elle est aussi dans la grande Stéphane, dans Julia, enfin, elle est répartie un peu dans mes personnages féminins.
Se ressent, Adeline, soyez-en certaine.
Je sais pas.
On va prendre une petite photo de groupe, comme on en a l'habitude. Voilà, si vous avez le livre, c'est le moment de le mettre en avant. Magnifique. Eh oui, Pauline, il est flou le tien. Ça y est, c'est bon. Merci. Alors, justement, cette rebouteuse, ce côté magnétique, on sait que beaucoup y croient, en tout cas, à chaque fois quand on va dans certaines régions, beaucoup y croient. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est concrètement dans le cœur des hommes, dans le cœur des femmes? Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on y croit par, comment dire, par identité, par acceptation de l'autre, par appartenance à une communauté, ou est-ce qu'on y croit profondément? Est-ce que vous avez un début de réponse par rapport à ça?
Non, mais je pense qu'on y croit individuellement, profondément. En plus, c'est pas une, c'est des gens. Il n'y a pas une communauté. On dit pas qui est le magnétiseur, en fait. Qui est la rebouteuse, c'est un peu caché. Et on trouve pas j'allais dire dans les pages jaunes, dans l'annuaire à l'ancienne. Voilà, c'est pas quelque chose qui se trouve facilement. Ça, c'est dans l'oralité, le bouche à oreille. On se passe le message, bah, va voir. Moi, je connais une amie d'amis qui a été voir le guérisseur, la magnétiseuse, le rebouteux, plusieurs façons de les appeler. Et moi, là où j'ai grandi, la première fois que j'en ai vu un, c'était quelqu'un qui venait soigner les chevaux, en fait, les chevaux de course, et les remettre d'aplomb. Et là, j'ai vu faire et j'y ai cru profondément. Pourtant, à l'époque, j'étais assez cartésienne et très terre à terre. Et ça marche sur les animaux. Donc, je pense que sur nous, alors, il peut y avoir aussi. Il y a un peu une mode hein, aussi en ce moment. Il peut y avoir des charlatans. Hein, ça peut exister. Mais dans ces territoires-là. C'est vraiment un don qu'elle travaille en plus. Et voilà, et là, en allant en librairie un peu partout en France, il y a pas mal de gens qui me racontent, moi aussi, j'ai été voir un magnétiseur pour X raisons. Et c'est assez bluffant. Et dans les hôpitaux, maintenant, on fait appel à eux. C'est marrant, la médecine les intègre. Pour les grands brûlés, notamment, on appelle ça des barreurs de feu ou coupeurs de feu, pour les maladies de peau, pour certains cancers. Je ne dis pas que ça guérit des cancers, hein, je ne suis pas médecin, mais ce sont des adjuvants. Ce n'est plus des oppositions. On n'oppose pas la médecine à ce qu'on qualifiait avant de, je sais pas, de sorcier quelque part. Et moi, j'ai envie d'y croire. Et
Là,
là,
avec la vieille, on y croit.
et ce sont des gens qui sont très oui, en fusion avec la nature aussi. Et je pense qu'il y a, c'est ça, il y a une énergie que nous, on est peut-être coupé de ça, comme les urbains, on est coupé de la nature. Peut-être que de vivre dans une terre comme ça, balayée par les vents, les embruns, il y a des énergies qui traversent et ça doit peut-être accentuer les choses quand quelqu'un a un don de cet ordre-là.
Ce qui m'a frappé aussi dans votre roman, Adeline, c'est l'absence quasi totale de dialogue direct, en tout cas. Il y a cette manière de raconter ce que disent les gens, ce que disent les personnages, de manière extrêmement aussi fine, et c'est un choix évidemment éminemment volontaire et j'imagine ciblé. Est-ce que c'était le cas depuis le début, dès les premières versions? Il fallait ce style narratif, cette manière de parler indirect.
Ah oui, alors moi je crois que je ne sais pas dialoguer. En fait, c'est aussi ça. Je ne sais pas. Enfin, dans Les Combattantes, là, j'étais obligée de dialoguer parce que ça venait d'un scénario et c'est une autre forme de littérature. Et je n'ai pas le dialogue direct facile. Enfin, j'ai l'impression qu'on entend mes personnages, mais dans un style indirect. Enfin, c'est mêlé. Et ça doit venir aussi de la presse écrite, finalement. On doit donner à entendre, mais sans être passé par les tirets et le style, enfin le dialogue direct. Je crois que je ne sais pas dialoguer, tout bêtement. Ou alors, c'est très rare dans mes précédents romans, quand il y en a, c'est trois lignes comme ça, un petit. Des dialogues très très courts. Qui porte un message à chaque fois assez fort, mais je suis pas à l'aise avec avec l'art du dialogue. Mais j'ai l'impression qu'on entend mes personnages en fait. C'est mon
Clairement,
truc.
ce n'est pas du tout un défaut du roman. Au contraire, je pense que ça gagne en profondeur et en imaginaire aussi. Ça permet d'ouvrir un petit peu plus les portes de simples dialogues qui, souvent, il faut le dire, dans la littérature française, ne sont pas forcément de bonne facture. C'est pas simple d'écrire des bons dialogues. Et pour le coup, je trouve que c'est une très bonne astuce. Bravo, voilà. J'aimerais qu'on parle de ces deux femmes dont on a encore finalement peu parlé, la grande Stéphane et Julia, cette maréchale ferrante d'un côté, cette vétérinaire de l'autre, avec le choix d'offrir deux personnages féminins au lecteur, mais qui ont des métiers d'hommes, en tout cas dans les années 80, puisqu'aujourd'hui, les vétérinaires sont quand même beaucoup plébiscités par les femmes, mais à l'époque, en effet, c'était clairement le cas. C'est cette volonté d'insérer de la féminité dans un milieu extrêmement masculin, c'est une volonté aussi extrêmement forte, mais j'aimerais que vous nous parliez de ces deux personnages. Qu'est-ce qu'elles vous inspirent, de laquelle vous vous sentez finalement le plus proche, la plus proche? Vous avez dit tout à l'heure que la grande Stéphane était encore dans votre tête, évidemment, et on comprend parfaitement cette analogie, mais comment vous les raconteriez, ces deux personnages?
Elles sont nées en même temps, d'abord la grande Stéphane, puis Julia, très vite, d'un chapitre. Elles se sont imposées à moi et les métiers tout de suite aussi. C'était une évidence. La vétérinaire d'animaux de ferme, venant de la ville, donc qui n'a pas manipulé des chevaux et des vaches avant d'arriver. Et la maréchale ferrante, oui, on peut le dire, on s'est posé plusieurs fois la question, et je tenais à ce que ce soit féminisé dans le texte. Ça, moi, j'en ai pas vu. Alors peut-être maintenant il y en a forcément, elles sont très très peu. Mais à l'époque, j'ai vu beaucoup de maréchal ferrant masculin venir dans les écuries où je montais à cheval, tout ça. Et c'était un métier, moi, qui me fascinait, mais vraiment. J'étais toute fluette adolescente, mais c'est quelque chose que j'aurais adoré faire, être au contact comme ça des chevaux dans les écuries 24 heures sur 24. Et voilà, donc elles se sont imposées à moi et tous mes personnages. Enfin, j'ai l'impression que j'ai travaillé en duo. Et c'est, il y a beaucoup de duos hein, dans ce texte. Et là, c'était le premier duo. Et j'avais quitté un texte, le précédent texte qui était Les Frénétiques, où il y avait deux personnages féminins. Mais alors là, c'était une histoire plus de désir entre deux femmes. Là, il y a un moment, je creuse pas l'histoire d'amour parce que c'était pas le sujet et ça faisait beaucoup d'histoire dans l'histoire. Mais il y a quand même cette question de la fluidité. C'est un texte qui peut être gender fluide avec ces deux personnages-là. Et elles ont une forme de sororité aussi, une autre forme d'amour peut-être. Donc je les ai travaillées, une plus masculine a priori, et grande et forte et puissante, mais en même temps elle est pleine de fêlures, la grande Stéphane, et de fragilité, et Julia, plus féminine de prime abord, et en fait qui a une certaine force. Enfin, elles se nourrissent, c'est des vases communicants, ces deux personnages. Et peut-être qu'à elles deux, elles incarnent une féminité absolue, un truc un peu total. Est-ce que ce serait la femme idéale? Je n'en sais rien. Mais voilà, tout comme dans les jumeaux. Alors là, les jumeaux blonds, c'est le prince charmant divisé, quoi, en deux. C'est un petit peu ça. Et je me suis rendu compte, mais presque inconsciemment, que mes personnages marchaient par duo, des tandems. Presque tout le temps.
C'est vrai. Et ils ont tous en eux aussi une certaine dualité. C'est ça qui est aussi très intéressant. Tous, hein, autant qu'ils sont, je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit manichéen. J'ai aucune. Je pense pas. Je pense qu'ils sont aussi, ils ont aussi cette part d'ombre et de lumière en eux. Et c'est ça qui donne aussi encore un petit peu plus d'épaisseur à chaque personnage. J'aimerais que vous nous parliez peut-être aussi de l'enfant fée, le fêté. Je ne sais pas si c'est un véritable terme d'ailleurs.
C'est
J'imagine
dans
que
les
oui,
pensées. Oui,
apparemment.
tout
Voilà.
à fait. Oui.
Alors, qu'est-ce que le fêté pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, cet enfant fée?
Alors, l'enfant fée des légendes, il existe sous plusieurs formes, mais il y a plusieurs légendes autour des fées dans le Cotentin. Mais en gros, on dit les fées se sont penchées sur son berceau. Mais là, ce ne sont pas pour des bonnes raisons, c'est pour voler un peu les âmes des enfants. Quelque part, et je trouvais cette histoire un peu, enfin, complètement dingue. Il y a des fées maléfiques, il y a des bonnes fées, d'où mes personnages un peu dichotomiques qui oscillent entre le bien et le mal. Et voilà, et j'ai cherché dans mes personnages réels, le petit garçon bizarre. Le fils de Marie et des éleveurs de vaches, qu'on peut qualifier, parce qu'il y avait un autre enfant fée, qui est l'enfant, le petit Jolo, l'enfant du vieux et de la vieille, mais qui lui est, c'est pas, enfin, même ceux qui l'ont pas lu, et on sait très vite qu'il est mort voilà, des conditions mystérieuses. Et la vieille préfère se raconter que c'est un enfant fée plutôt que d'accepter la dure réalité du drame. Et ce gamin, ce gosse bizarre, qui est un peu à la marge, qui est un peu bouc émissaire, qui traîne partout. Chaque fois qu'il y a un cadavre d'animal, il est dans les parages. Quand il y a la pluie de grenouilles, il est dans les parages. Et on le désigne un peu comme... il est maléfique, il est pas clair ce gamin. Et en fait, moi j'y vois un personnage très poétique, peut-être de gamin hypersensible et qui a du mal à s'intégrer avec les autres. C'est un texte aussi sur l'enfance, hein. Ils sont cruels, tous ces enfants entre eux. Et lui, voilà, il se sent mieux avec la vie minuscule, les orvées, les vers de terre, ça grouille, à traîner dans les dunes, dans cette maison abandonnée. Et il se construit comme ça, il est clairement différent. Et je voyais l'incarnation d'un enfant fée, enfin d'une fée Et sa mère aussi, un peu, Marie, elle en a presque peur de son enfant. Elle n'a pas de prise dessus. Donc l'altérité, elle est là aussi. Et au sein même du village, il y a des personnages qui sont rejetés, comme celui-là, qui va marcher avec le géant, qui lui est le marginal par excellence, mais ils vont s'éclairer l'un l'autre. C'est un texte très noir, je l'avoue, je le reconnais, mais avec pas mal de lumière aussi dans ces duos de personnages. Chaque fois, j'essaye qu'ils soient poétiques, enfin j'espère.
Et alors, cette histoire de ce géant, j'ai cru comprendre que c'était issu d'un conte sur le varou. Est-ce bien ça, justement? Alors, ce varou, cette espèce de loup-garou, de ce que j'ai cru comprendre dans ce que j'ai lu auparavant, finalement, vous l'avez totalement transformé?
Oui. Ben oui. Enfin, c'est le personnage qui incarne, c'est la bête assoiffée de vengeance, tout ça. Et je l'ai.
C'était justement pour ne pas tomber dans le trop vampirisant, dans le côté peut-être un petit peu trop classique du loup-garou.
C'est une forme de loup-garou, clairement. Mais ouais, non, je l'ai complètement transformé. Et puis, c'est un personnage, ce géant, on ne sait pas trop qui il est au fur et à mesure du texte. Puis, il se révèle et il prend beaucoup plus de place à la fin. Évidemment, il porte une grande violence. Évidemment, c'est un enfant qui a été. Bon. Qui a été maltraité, beaucoup de gens ont lu le texte. C'est quelqu'un qui a été enfermé, cloîtré, qui a vécu dans le noir, qui s'est échappé et qui revient clairement pour se venger. Mais je voulais aussi qu'il ait des fêlures, des failles, des fragilités et une part d'humanité. En fait, c'est un monstre, oui, mais c'est pas qu'un monstre. On parlait de Frankenstein, mais c'est ça aussi, c'est une créature. Et avec au contact de ce gamin blond étrange, il va dévoiler un peu plus d'humanité, de sensibilité. Et c'est au fur et à mesure du retravail du texte que je les ai pensés en duo, comme Lenny de John Steinbeck, des souris et des hommes, et Georges. Lenny, lui, il aime caresser ce qui est doux, la fourrure des souris, le pelage des souris et des chiots, et ensuite caresser les cheveux d'une femme, et finalement, il tue, mais par maladresse, c'est comme un enfant qui sait pas faire. Et ce personnage-là, il me fait penser à. Ouais, clairement, c'est un texte que j'ai lu il y a des années. Et je me suis dit, mais oui, c'est une sorte de Lenny. On va pas le condamner entièrement. Et ce géant, ouais, je l'ai travaillé avec sa part de ses zones d'ombre et sa zone de lumière aussi, à chaque fois. Ombre et lumière, violence et sensibilité. Je pense qu'on a tout ça en nous. Mais bon, de là à passer à l'acte, voilà. Mais
Pas ce soir, Adeline, pas ce
ouais,
soir.
ce soir, je préfère mettre ça dans un livre. Ça défend.
Aurélie, c'est à toi.
C'est la première fois que je prends la parole, je ne savais pas activer le son.
C'est bon, ça y est.
Bonsoir à tous. J'ai lu le livre avant la rencontre pour une fois. Et du coup, moi, il y a un personnage qui m'a beaucoup interpellée, c'est la fillette du pavillon numéro 13, hein, parce que je suis moi-même une fillette des pavillons qui se sont. Donc, du coup, et je me dis, mais c'est qui cette tyran? Et tout à l'heure, Anthony a parlé de la lumière, de tous les personnages. Et en fait, j'ai beau chercher, j'ai pas vu la lumière chez ces enfants.
Ouais, ils sont, j'avoue, ils sont vraiment, ils sont cruels. Et elle en particulier, hein, c'est la chef du clan. Elle est quand même cruelle et sadique. Mais si, c'est quand même ces petits moments avec l'enfant fée où. Il y a un peu de tendresse. Bon, je vous l'avoue, elle est pas
elle est pas ultra ultra lumineuse, mais au départ, les personnages du lotissement, ils sont, ils n'existent pas finalement. C'est juste ceux du lotissement. Et je les fais exister par le biais des enfants. Et cette gamine-là, un peu, un peu difficile. Et en même temps, c'est enfin, c'est un ressort narratif important, je trouve, cette petite. C'est une clé dans l'histoire qui la relie à ce petit garçon. Et aussi, elle relie ceux du lotissement à l'histoire du village. Enfin, tout ça était dans mon jeu de tissage. Elle m'était bien utile, en fait. Et en même temps, bah, j'ai pas mal traîné dans le lotissement en question. Et on avait des jeux assez sadiques, en fait. Et puis là, bon, bah, c'est les petites filles qui ont pris le pouvoir. Et là, d'ailleurs, celle qui prend la suite, elle passe le témoin à la boulotte, qui était quand même l'objet de sarcasme et de sadisme de la part des autres. Et à la fin, c'est elle qui, bah, d'ailleurs, c'est elle qui ouvre la fin du livre. Mais, bon, il y a un arc-en-ciel quand même, il y a la lumière.
Juste si je puis me permettre, il y a plein d'enfants bien dans les lotissements.
Mais oui, c'était pas du tout une. Ça...
En tout cas, on va savoir à présent la liste de vos délits, Adeline. J'espère qu'il y a prescription. J'espère. Non, mais j'aimerais qu'on parle vraiment de ces habitants du lotissement parce qu'ils m'ont fait penser à finalement beaucoup de personnes autour de moi et autour de, j'imagine, de beaucoup d'autres, de ces personnes, de ces ombres qui finalement s'habillent, vivent pareil, conduisent de la même façon, errent comme des ombres dans la société. Est-ce que c'est une métaphore aussi de ce que certains êtres humains, et peut-être beaucoup à mon sens, sont devenus sans identité, sans personnalité? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez mettre en avant aussi? On parlait tout à l'heure de côté sociétal, journalistique. Est-ce que c'est une métaphore finalement de notre société?
Bah alors, sans vouloir dénigrer cette France un peu périurbaine entre deux, là, pour le coup, j'ai beaucoup circulé en reportage, surtout dans les années 2000, alors plus tôt, et me venait, ça me sautait à la gueule, ces lotissements qui se ressemblent finalement, qu'on soit en Normandie, en Seine-et-Marne ou dans le sud, c'est les mêmes avec la même sociologie. Enfin, je pense pas avoir une plume méprisante hein, par rapport à ça, mais c'est ouais, cette existence un petit peu, un peu cette France dortoir qui peut être aussi dans la France des cités avec d'autres problématiques évidemment, mais oui, cette France un peu dortoir, un petit peu. Le même pavillon, la même voiture, je force le trait avec le même samedi soir conjugal. Enfin, je vais un peu loin avec ça. En même temps, je leur donne pas de nom, c'est volontaire, c'est une entité sociologique que j'ai, qui est pas loin, qui est là, qui touche ces ruraux. Et ils ne se mêlent pas, ils ne se mélangent pas. Ils ne vont pas au village. Ils ne vont pas au village. Ils prennent la voiture pour aller travailler à la sous-préfecture. Voilà, oui, c'est pas une métaphore. Enfin, je pense que c'est quelque chose. Pour le coup, c'est la partie réaliste du roman. Mais encore une fois, sans vouloir stigmatiser une population, je pense qu'avoir une plume un peu caméra, un petit peu, ouais, comme un reportage
Roger,
finalement,
ouais.
voilà, comme
Sorte
c'est
de
le.
Truman Show, j'y ai
Oui,
vu Truman Show, moi.
c'est ça. Une caméra qui s'immisce dans ces murs-là. Que ce soit ceux du lotissement ou les murs de la maison où vit la grande Stéphane. Cette maison est un personnage à part entière, puisqu'elle a enfoui un secret. Et la grande Stéphane, elle ne veut pas. Enfin, elle va finir par partir, mais elle est complètement obsédée par cette maison.
Là, il y a comme une magie, enfin, enfin, il y a la magie qui opère et en même temps les murs qui racontent une histoire. Et oui, et les lieux ont une importance, ce sont vraiment des personnages à part entière dans ce texte.
Tout à l'heure, vous parliez de féminité et de féminisme potentiel. Vous écrivez aussi dans le roman que les femmes souffrent en silence. Et j'imagine que c'est aussi symptomatique de ces contrées en vase clos, ces contrées en vase clos finalement. Comment?
Ben, là, les femmes la prennent plus la parole,
Mais
mais
voilà, justement, ma question étant, est-ce pour réveiller ce silence que Julia et la grande Stéphane existent?
mais complètement, puisque elles viennent d'ailleurs et quoique elles ont fui la ville violente quelque part et elles n'arrivaient pas à prendre la parole non plus là-bas. Et elle pensait se reconstruire dans ce territoire-là. Mais oui, c'est des femmes qui souffrent en silence, mais qui ne sont pas victimes. Enfin, j'ai l'impression que les personnages féminins de ce roman sont pas victimes. Et même, enfin, un personnage secondaire, enfin, qui est juste cité, la violence, elle est dans les deux sens. Il y en a une, elle prend une pelle et elle balance un coup de pelle à son mari. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'était dans le voisinage d'une amie. Donc, c'est des choses là.
Moins fréquent.
Oui, les moins fréquents que les violences conjugales dans l'autre sens. Mais non, mais c'est des femmes aussi taiseuses qui sont dans l'ombre. D'ailleurs, le mari, l'éleveuse de vaches, enfin, la femme de l'éleveur, on le voit pas, hein, son mari dans le texte, mais elle est dans cette cuisine. Elle, c'est les tâches administratives de la ferme. Et on a l'impression que son horizon est cantonné à cette table de cuisine. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu. Alors peut-être moins maintenant, mais c'était le cas dans cette ruralité de la fin des années 80, en tout cas. Et ces deux personnages féminins de l'extérieur. Elles sont suspectes aux yeux des hommes, mais aussi aux yeux des femmes qui ne sont pas habituées à ça. Et oui, elles viennent un peu secouer tout ça.
Sont même attendus au tournant, notamment pour Julia.
Oui, ah bah oui, parce qu'elle prend le relais des animaux de ferme, enfin du vieux. Et au départ, c'est pas évident de lui faire confiance finalement. Est-ce qu'elle sait faire, elle qui a soigné que des chatons et des perruches en ville, quoi, quelque part.
Et Julia a raison, c'est vrai qu'elles sont finalement plutôt modernes pour des femmes des années 80. Et là, ne chantez pas, hein.
Est-ce qu'elles sont modernes pour dire... Oui, bah oui. Puis la grande Stéphane, elle a un passé très urbain. De culture underground de la nuit. Vraiment, elle est en opposition avec ce monde de la ruralité. Et l'homophobie, je l'ai un petit peu diluée dans le texte. Je voulais pas en faire un sujet principal, mais c'est là aussi, enfin, c'est dans cette peur de l'autre, de l'étranger, quel qu'il soit. Et les hommes essayent de séduire la grande Stéphane, mais elle se laisse pas faire. Et après, il y a des on-dit sur elle et Julia, et très très vite. Ça, mais finalement, c'est pas quelque chose qui prend de la place dans le roman, mais c'est en des petites touches comme ça que je balance des petites pistes de réflexion aussi.
Fait. Alors j'aimerais qu'on parle aussi du titre et notamment de l'épigraphe, puisqu'il est issu de Jean de La Fontaine, Les animaux malades de la peste. Comment vous avez décidé ça, trouvé ça? Est-ce que c'est un poème, une fable pardon, qui vous a animé en tout temps? Est-ce que au contraire le processus a été inversé Et vous avez écrit le roman et ensuite il a fallu trouver un titre et finalement celui-ci s'y prêtait parfaitement. Comment s'est passée cette recherche du titre?
Alors, il s'appelait pas du tout comme ça. Au départ, il avait un titre de travail très, très éloigné de ça. Il a circulé sous un autre titre et la direction commerciale de la maison d'édition ne le trouvait pas assez accrocheur et j'avais à cœur de le trouver moi-même, ce titre. Je ne voulais pas qu'on me l'impose. Et j'étais obsédée par un titre qui est déjà pris par Nicolas Mathieu aux Animaux la guerre. Ça me mais ça ce titre était je me le répétais 150 fois mais il est pris, il est pris, il faut renoncer, arrête, arrête. Et donc j'ai relu Les Animaux malades de la peste parce que c'est tiré de la même fable et même du même de la même strophe. Et là, je reprends et je vois ce mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. Et là, c'est mais une évidence. J'ai tout un dimanche soir, j'y ai réfléchi. Lundi matin, j'ai attendu, mais genre 7h59 pour appeler mon éditrice et dire, je crois que j'ai trouvé un titre, Le ciel en sa fureur, ça veut, c'est tout ce qui, ça concentre tout ce que je veux dire. Et le soir, c'était validé et on n'a pas eu d'autres propositions, contre-propositions. Et voilà, l'histoire
Alors,
de ce...
et concernant la couverture qui me sied à ravir, je trouve que c'est ma plus belle couverture qui puisse qu'on pouvait mettre derrière moi. Je pense que voilà, elle est parfaite. Finalement, quelle est l'histoire de cette couverture? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière? Parce qu'elle est quand même fabuleuse. En tout cas, elle se prête parfaitement au titre.
Alors c'est pareil, un mal pour un bien, on me fait plusieurs propositions et on flash toutes. Parce que je
Henri
dis...
Prest, le photographe.
Ouais, mais d'abord il y a eu une autre histoire sur une autre photo. On flash toutes sur une autre photo. Je dis toutes parce qu'il n'y a que des femmes. Hein. C'est... Pardon. Et c'était une photo un peu à la Franck Bouys, née d'aucune femme, un peu quand même impactante. Et on n'obtient pas les droits. La photographe qui est polonaise ne nous cède pas les droits. Et là, je fais le deuil de cette photo. Ce n'est pas évident parce que c'était monté. Ça y est, je voyais le livre avec une photo très impactante. Et 48 heures après, mes éditrices m'envoient une série de photos de ce photographe portugais. D'ailleurs, sur les réseaux, c'est Henri Film et c'est vraiment aller voir. C'est un puits de. Enfin, c'est que des potentielles couvertures de livres. C'est assez fou avec des atmosphères comme ça étranges. Et il y en avait trois et je vois celle-là au milieu et je dis, on arrête tout. J'adore, j'adore, j'adore. Est-ce que vous l'avez contacté? Et là, ça se fait très vite. Et le 48 heures après, on a les droits. Et voilà. Et c'est assez. C'est vrai qu'il y a tout, en fait. Il y a cette maison abandonnée. Elle est détruite maintenant, celle de mon enfance. Mais c'est exactement ça. La jeune femme qui, apparemment, j'ai percé, c'est la compagne du photographe. C'est un peu Julia, la mer derrière, la carcasse de bagnole, les dunes, les chardons, avec ces petites chardons en fleurs jaunes, ça j'aime bien, ça, petite touffe de lumière quand même. Et ce ciel, quoi, qui est le ciel que je vois depuis la terrasse de chez mes parents, quoi, c'est assez incroyable. Et pour la petite histoire, il est revenu 2 ans après sur le même lieu, il fait ça. Et en fait, c'est devenu il n'y a que des vieilles bagnoles. La maison, on ne la voit même plus, tellement qu'il y a de carcasses c'est une casse de voiture. Et elle est pas mal aussi, celle 2 ans après, pour une autre atmosphère
Un prochain roman
Oui.
pour l'univers automobile.
Voilà.
Sans transition, puisque le ciel en sa fureur, c'est très beau, mais j'aimerais aborder aussi un thème plus délicat, c'est le suicide. Vous parlez du suicide, je vous cite. Seulement ici, personne n'accepte l'idée du suicide. Le suicide est l'arme des faibles, pense-t-on dans les chaumières. On préfère encore croire aux fantômes et aux fées maléfiques pour expliquer certaines morts brutales, plutôt qu'au désespoir des vivants. Les histoires de fées, ça permet d'enrober de merveilleux les vérités que l'on ne veut pas affronter. Il est magnifique ce passage aussi, et j'imagine extrêmement vrai aussi. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. On ne pense pas forcément à ça quand on est dans ces contrées-là, finalement. C'est quelque chose de tabou, peut-être aussi. Et finalement, ce côté enrobant des contes et légendes, ça permet de finalement de mettre un voile devant notre réalité. C'est aussi la métaphore propice à n'importe quelle société et à n'importe quel être humain, peut-être. Mais je trouve que ce passage était important d'être lu et cité.
Oui, en plus, il décrit une réalité. Il y a quelques années, j'avais enquêté sur le suicide des paysans. Alors, pas chez moi, j'avais été dans le sud-ouest couvrir un fait divers, en fait, un paysan qui s'était pendu parce qu'il avait utilisé des pesticides, en fait, et tout le monde lui était tombé dessus. Il était harcelé par des voisins, par des écolos, par même des hommes politiques. C'était assez, ça avait pris des proportions assez énormes. J'ai été choquée par cette histoire et j'avais eu du mal à enquêter, à ouvrir les portes se claquaient. C'était très tendu. On avait couvert les obsèques du paysan avec le photographe. On s'était fait foutre dehors. Enfin, c'était vraiment une réalité très, voilà, qu'on tait, on veut pas que ça sache, et en même temps, je crois que les chiffres là, du suicide des paysans, ça explose. Il y a de plus en plus de psy aussi là-bas, et heureusement qu'ils peuvent consulter. Ça n'existait pas, ça, dans les années 80, par exemple. Et là, tout récemment, mais le livre était déjà écrit. Mes parents ont récupéré la chienne d'un agriculteur qui s'est pendu il y a l'année dernière, et retrouvé comme ça tout seul, criblé de dettes. Donc c'est des choses qui arrivent. Et oui, et le recours au conte et à la féerie permettait de parler de ça, mais de manière un peu moins dramatique, et on s'accroche à. On aime bien se raconter. Enfin, la fiction nous sauve de la réalité, en fait, parce que c'est un livre aussi sur la fiction, et surtout sur le pouvoir des histoires.
Alors, on va rester dans la noirceur, puisque je me pose une question récurrente aux écrivains de l'avenir. Dans 50 ans, finalement, on sera en 2074. Là, vous avez fait un bond dans le passé, dans les années 80. Maintenant, je vous transpose dans 50 ans. Que voyez-vous, finalement, Adeline Fleury? Et vous avez le droit d'utiliser un magnétiseur ou un rebouteux pour vous aider.
Mais elle est incroyable, cette question. C'est surtout que moi, là, j'ai des périodes. Je suis quelqu'un d'assez jovial, je souris à la vie, tout ça. Mais disons que depuis 2020, je trouve qu'on enchaîne quand même pas mal de catastrophes. Et j'ai des moments de carrément, un jour sur deux, c'est la Troisième Guerre mondiale, hein, dans ma tête. Donc voilà, moi, j'en suis là. Mais quand même, j'essaye de me projeter en étant maman, en voyant les adolescents de l'âge de mon fils, qui, malgré. Alors, là aussi, il y a beaucoup de. Il y a suicide adolescent, tout ça, depuis le Covid, mais quand même, il y a une jeunesse, je trouve d'abord, extrêmement militante, extrêmement politisée. On dit que la politique, ça n'intéresse personne, mais je trouve qu'il s'accroche à des sujets essentiels, en fait, que sont le féminisme, les minorités, l'écologie, et l'arrivée aussi on parle d'intelligence artificielle, tout ça, nous, ça nous fait peur, et eux, ils en parlent d'une façon très positive. Mais maman, regarde, quand Internet est arrivé, regarde ce que ça a changé à notre vie. L'intelligence artificielle, on va l'utiliser de façon, j'allais dire intelligente. Enfin,
Quand, entre de bonnes mains, ça peut, notamment en médecine, ça peut être des avancées assez extraordinaires. Et même dans l'art, tout en nous enlevant pas cette capacité qu'on a à nous de créer et d'écrire et d'inventer des histoires, mais dans les arts plastiques, enfin, je pense qu'il y a plein de choses et l'artiste sera quand même à l'origine de l'acte de création. Alors là, on n'est pas dans 50 ans, mais on est peut-être dans 5 ans, quoi. J'ose espérer que l'humanité. Enfin, voilà, enfin, on dit toujours, enfin, je pense que peut-être enfin, le pire a été. Enfin, il y a déjà eu des périodes de l'histoire quand même ultra sombres, encore beaucoup plus violentes, parce que là, on a l'impression que tout est surpuissant et surviolent, mais le Moyen-Âge, c'est pas une période que j'aurais aimé traverser, en fait. Donc, j'ai envie. Je sais pas, je vais aller voir Dune 2 là ce week-end et peut-être me projeter dans une autre humanité. J'ai envie quand même d'être un peu qu'il y ait de la lumière. Après, le réchauffement climatique, ça craint quand même quoi. Est-ce que dans 50 ans, on va tous aller dans le Cotentin déjà?
Ils vont pas être contents.
Et eux, ils vont
Ils vont
migrer,
bondir. Ils vont bondir.
ils vont bondir. Voilà, non, mais cette question, elle est trop dure. Je ne suis pas Madame Irma.
Et je vous pose une deuxième question qui est beaucoup plus simple, puisque je demande toujours aux écrivains de donner un auteur méconnu, un petit peu moins, voilà, un petit peu moins connu, que ce soit de manière littéraire ou de manière tout simplement de manière. En tant qu'homme, en tant que femme, j'imagine que vous avez choisi une femme, j'en suis presque sûr.
Ah oui, oui. Mais alors j'ai été chercher dans la littérature italienne. Ouais, je fais toujours ça. Je suis maligne comme j'ai pas mal d'amis écrivains tout ça en France pour pas heurter les uns les autres. Oui, tu m'as préférée. Non, en fait, moi j'ai une passion pour une autrice italienne qui n'est plus vivante, qui était contemporaine de Moravia et d'Elsa Morante. C'était Anna Maria Orthese. Et cette autrice, alors elle est née à Rome, mais elle a beaucoup vécu à Naples. Elle a écrit un texte fabuleux qui s'appelle La mer ne baigne pas Naples. Et alors, c'est pas la carte postale, hein, c'est intense, dur, très social. Et à côté de ça, elle a écrit des petits textes. Alors là, j'en ai un, c'est chez Actes Sud, un endroit où aller, un peu flirtant avec le réalisme magique. Justement, et celui-là, c'est des nouvelles, ça s'appelle. Le Monacello de Naples et le fantasme. Et elle fait, c'est fou, j'ai lu ça là récemment. Elle fait pas exactement ce que je fais dans Le ciel dans sa fureur, mais elle revisite un conte populaire qui est le petit moine de Naples et qui fait penser au gobelin qu'il y a dans Le ciel dans sa fureur. Le petit moine de Naples, c'est un personnage qui vit dans des armoires comme ça, caché dans les maisons bourgeoises, un peu maléfique, et en même temps on est très attaché au petit moine. Et Anna Maria Orthese, elle a une écriture très très poétique aussi. Et dans d'autres textes, ça peut être très social, c'est marrant, c'est vraiment les deux visages. Enfin, c'est ce que j'aime en littérature en ce moment. J'ai envie de lire ça et que ça. Voilà.
Très bien, c'est un très bon choix parce qu'en effet, on n'entend pas tant parler que ça.
Non, et elle est décédée en 98, elle est née en 1914 et elle a eu une belle carrière en Italie. Elle est traduite en France depuis, c'était Actes Sud, depuis la fin des années 90. Et moi, c'est un éditeur. Qui s'occupait du domaine italien de Gallimard, notamment qu'a apporté Elena Ferrante en France, qui m'avait conseillé
Oui, on parle tout le temps de Moravia, de Morrante, mais Ortesé, c'est la meilleure. Et de Goliarda Sapienza, que j'aime beaucoup. Et voilà, il est beaucoup moins connu. Donc, je vous la conseille vivement.
Et alors Sandra, vous demandez votre lecture actuelle, une lecture table de chevet, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce que j'imagine que c'est toujours du roman, vous avez passé
Alors.
à gauche des essais, on est d'accord, hein?
Oui, non, non, mais ça, les essais, je vais y revenir. Je lis à peu près 3 livres en même temps.
On est
Donc,
raccord, on est raccord, Adeline.
oui, mais alors là, j'ai commencé parce que je vais débattre avec lui au Salon Livre Paris et avec Cécile Coulon, Jérémy de Cotigny. C'est cette nouvelle collection Corps Céleste chez Fleuve. Ça s'appelle Les Mains Veines. J'ai commencé ce matin. Il y a une histoire de guérisseur et de magnétiseur, comme dans le livre de Cécile Coulon aussi. Donc, ils nous ont mis tous les trois. Et j'essaie de terminer une somme d'Édouard Jousselin qui s'appelle La géométrie des possibles chez Rivage, qui est, waouh, là aussi, espèce de roman-monde choral, plusieurs temporalités. Et il est très jeune et super doué. J'avais adoré son roman précédent, Les Cormorans. Et la troisième lecture, c'est, oui, je relis, mais ça, parce que vous avez des petits indices, hein, j'écris sur Naples. Je relis Malaparte, la peau, la pelle. C'est pas très gai, mais voilà, ça c'est plus pour le travail. Et je vois que Agnès est là et tu es ma prochaine lecture. Corps de ferme.
Eh bien voilà, en effet, il y a des
Voilà.
liens.
Oui,
Clairement,
aussi.
il y a
Merci beaucoup.
Ben oui.
J'adore.
Mais c'est la faute d'Edouard parce que c'est trop. Il est long. Son pavé de 600 et quelques pages, mais vachement bien. Voilà.
C'est vrai. Eh bien, si on terminait cette rencontre par un deuxième extrait que vous nous
Ah
avez
bon.
préparé, Adeline.
Alors, on va aller avec la grande Stéphane. Vous avez compris, hein, je crois que c'est mon personnage préféré.
J'ai compris. C'est, je pense, le personnage, j'imagine que vous avez beaucoup tourné en librairie. Je pense que c'est le personnage le plus plébiscité aussi.
Oui, je crois. Oh, ouais, ça revient. L'enfant fée, elle. Oui, quand même. Espèce d'unanimité pour la grande Stéphane. Alors, c'est la scène où elle se baigne dans l'eau glacée. Je suis nageuse, moi aussi, mais je me baigne plus dans l'eau glacée comme la grande Stéphane. Aujourd'hui, les pêcheurs ne sont pas là. Pourtant, l'eau est poissonneuse. La grande Stéphane frôle la pollice des maquereaux. Elle les sent sous son ventre ou glisser entre ses cuisses, comme s'il jouait avec elle. Les maquereaux l'ont acceptée parmi eux. Ils ne la jugent pas. Pas plus que les pluviers qui sifflent sur la grève. Plus elle s'approche de la bouée, plus le banc de poissons s'épaissit, la mer devient noire à force. Ça recommence. Une inquiétude la saisit. La grande Stéphane se sent observée. Elle tourne régulièrement la tête vers le haut de la dune, repère le gosse bizarre qui crapahute dans les oyates. Elle le voit souvent traîner ici. Il passe peu de temps sur les bancs de l'école. Elle garde la tête sous l'eau, quelques poussées. Prend une grande inspiration. Le petit a disparu. Pourtant, Stéphane se sent épié. Cela perturbe sa nage et accélère son souffle. Elle n'ira pas jusqu'à la bouée. Il faut qu'elle sorte. La menace se rapproche. Les maquereaux tournoient. Elle a très froid. Le gosse a filé, mais il y a quelque chose de poisseux et lourd dans l'air. Elle regagne le rivage, s'empresse de sortir de l'eau, court péniblement sur la vase violette par endroits. Elle est freinée par une vive douleur. Elle vient de marcher sur une coquille de moule. Un morceau de coquillage s'enfonce dans la plante de son pied. Elle grelotte en retirant les éclats coupants. Elle n'a rien pour nettoyer. Elle fait demi-tour pour tremper la petite plaie dans l'eau de mer. Le froid et le sel lui arrachent un cri. Le sang se mêle à l'écume et aux bancs de poissons de plus en plus compacts. Excitée par le fluide humain. Pour la première fois, les maquereaux lui font peur. La mer et son peuple lui semblent soudainement hostiles. Il faut qu'elle quitte les lieux. La panique la saisit. Elle en ignore l'origine.
L'enchaînement de la séance avec la rebouteuse et la découverte de la veille la perturbe. Tout se mélange dans sa tête, le petit Jojo, les poules déchiquetées, la fontaine aux fées, les araignées, elle est vidée. Une grande fatigue s'empare d'elle malgré les heures de sommeil forcées par les mains magiques de la vieille. Elle a ferré 3 chevaux depuis ce matin. D'habitude, elle se déplace une bonne dizaine de fois dans la journée. Mais là, elle a annulé les interventions de l'après-midi. Son corps n'aspire qu'au repli et au repos. Elle crache dans la mer une salive brune. Elle boite jusqu'au pied de la dune, se frotte énergiquement avec sa serviette, puis s'emmitoufle dans son peignoir éponge et une grande couverture. Elle grimpe difficilement la dune. Le sable s'éboule à son passage et recouvre les chardons bleus. Elle inspecte la lande, personne en vue. Pourtant, elle sent le drame s'abattre sur elle. Voilà.
Le sens du teaser, du titre. Parfait. Et alors, une dernière question, parce que vous avez quand même lancé une petite bouteille à la mer, parce que vous disiez
Ah.
à l'instant que, et oui, tout le monde acquiesce de la tête, je vois d'autres lignes de la tête, que vous écriviez sur Naples. Alors, est-ce que le roman est, entre guillemets, en voie de construction? Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être quelque chose, un petit indice, où vous en êtes véritablement qu'au début? Et que vous ne pouvez rien dire encore.
Non, alors il est trop tôt. Mais ce qui est certain, c'est que il y a Naples, mais c'est Naples sans. Encore une fois, je ne dis pas que c'est Naples, mais là, je vous le dis à vous. Mais il y a des éléments qui. Plein d'indices. Et il y aura des personnages bizarres aussi. Et un petit peu de merveilleux. Peut-être moins de violence. Mais je vais essayer encore travailler sur l'étrange, la bizarrerie, beaucoup de personnages. C'est une ville que j'aime beaucoup et qui est follement romanesque, mais je ne veux pas écrire sur la mafia, je ne veux pas écrire, je vais pas faire l'amie prodigieuse. Enfin, voilà, je veux creuser une histoire à moi avec cette. Enfin, je vais essayer de. Déplacer mon écriture sensorielle dans cette zone Naples et ses banlieues. Voilà.
Sensoriel et Naples, c'est un euphémisme. Oui.
Voilà. Mais
Merci.
pas plus, c'est déjà trop.
Déjà beaucoup, très bien. Merci infiniment, Adeline, pour vos mots, pour vos explications, pour votre roman, bien entendu, parce que clairement, il ne ressemble à aucun autre. On a parlé des influences, mais clairement, vous vous en détachez totalement. Et ça, pour tous ceux qui l'ont lu, clairement, quelque chose de puissant, de fort et de métaphorique aussi, à mon sens, beaucoup de métaphores, même si parfois on les cherche un peu, mais on les trouve à un moment donné dans le récit. Donc, bravo et merci, Adeline Fleury.
Merci à vous toutes et à toi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres garçons, j'ai pas vu. Ah, peut-être, oui, je ne sais
Peut-être, on ne sait pas.
pas.
Peut-être que c'était la grande Stéphane qui était là aussi.
Ouais.
Tout est Merci à tous, merci Adeline, à très bientôt.
Vraiment. Au revoir.
Pour longue route au ciel en sa fureur.
Merci.
Au revoir à tous.
Au revoir.